Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est tous les soirs une heure d'entretien avec les artistes qui font l'actualité culturelle, ce soir avec Leonora Miano.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bêta, 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 bêta.
Par les temps qui courent,
ça y est, plus facilement.
Marie Richeux.
Et c'est que dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
L'harmonie de l'univers est dérangée. Quelque chose de l'équilibre vivant dans lequel nous nous tenons est bousculé. Il y a grève des âmes. Elles refusent de s'incarner dans les êtres naissants au pays premier, voyant le chaos qui les attend là-bas. Il semble que ce chaos ne se dissipera pas tant que la vérité n'aura pas été prononcée sur certains crimes. Et c'est à la moitié féminine du divin, porteuse des âmes à naître, que revient de trouver une issue à cette crise. Dans un espace mythologique entre les mondes, où tous les noms comptent et renvoient notamment à l'histoire du trafic humain transatlantique, votre pièce de théâtre Révélation, partie de la trilogie Red in Blue, est actuellement et selon vos vœux mise en scène par Satoshi Miyagi au Théâtre de la Colline à Paris. Bonsoir Leonora Miano.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, puisque merci. Nous fûmes plusieurs à vouloir lire le texte après la représentation jeudi, qu'il est publié aux éditions de l'Arche, et c'est toute la trilogie qu'on peut donc lire à ce moment-là. Puisque l'histoire de cette pièce de théâtre qu'on peut voir en ce moment à Paris, c'est aussi l'histoire d'une rencontre, je propose qu'on écoute la voix de Satoshi Miyagi au micro de Laura Adler.
Le théâtre permet...
Ah, 自分と違う考えを持った人間と一つのお盆に乗って
de constater le plaisir de vivre avec des personnes qui sont différentes de nous-mêmes.
演劇という、まあ、一つの大きなお盆の上に俳優も観客も同時に乗っています。
Au théâtre, le public, les acteurs, les techniciens se retrouvent dans le même espace et partagent le même moment. Plusieurs valeurs se côtoient. Et on y trouve la joie de partage. Ceci sont très importants parce que ces deux points se relient. Le fait de faire une recherche en soi-même et de partager des valeurs différentes se relie car quand on commence à aller vers son centre pour se découvrir, et ben on s'aperçoit que ce jeu est une existence totalement différente de ce qu'on imaginait. Que c'est un autre. Alors, comment vivre avec ce jeu qui est un autre? C'est une grande question. Le fait de découvrir au théâtre la joie de vivre avec des valeurs différentes permet ainsi, d'après moi, de trouver la solution de cette question.
Une question qui se pose donc singulièrement et plutôt joyeusement, si on entend la voix de Satoshi Miyagi particulièrement au théâtre. Leonora Miano, je disais, selon vos vœux, c'est mise en scène, puisque au moment où vous devez, sur l'invitation de Wajdi Mouad, suggérer un nom de metteur en scène ou de metteuse en scène, c'est celui-ci qui arrive. C'est un vœu qui correspond à quoi pour vous?
Bah écoutez, j'étais... comme beaucoup de spectateurs de théâtre, j'avais vu le Mahabharata de Satoshi Miyagi, mais j'avais vu aussi une autre œuvre qui était tirée de l'association qu'il avait faite de légendes amérindiennes et japonaises, trouvant entre ces deux légendes une filiation. Et j'ai eu l'intuition que ce metteur en scène pouvait comprendre l'univers de la pièce Révélation, et non seulement le comprendre, mais surtout le sublimer. L'esthétique de son Mahabharata était absolument éblouissante. C'est quelque chose que j'invite tout le monde à aller voir. Je pense qu'ils vont le rejouer à Paris bientôt.
Oui, on donnera les dates.
C'est juste une merveille. Et j'avais envie de cette beauté-là pour raconter cette histoire un peu inhabituelle, disons, un peu inhabituelle, parce qu'on connaît bien l'histoire de la déportation transatlantique, mais j'allais écrire quelque chose qui allait lever certains d'entre les morts, hein, certains qu'on n'a jamais entendus, et leur permettre de s'exprimer. Il fallait au moins ça pour pouvoir approcher cet univers que je mettais en place.
C'est pas la première fois que vous faites une occurrence dans le théâtre. C'est peut-être la première fois que vous le faites avec cette force-là ou avec ce geste-là, Léonora Miano. Quand vous entendez Satoshi Miyagi dire que le théâtre, c'est pour lui le lieu de la plongée en soi-même, où on découvre que non seulement le soi-même est un autre, mais aussi qu'il est plaisant de vivre avec plein d'altérité. Est-ce que pour vous, le théâtre, du point de vue de l'écriture ou du point de vue de la représentation, c'est aussi ce lieu-là ?
Non, c'est l'écriture elle-même. Et le théâtre, c'est pour moi, enfin, je suis même pas sûre d'écrire du théâtre. Moi, j'écris, et les idées de textes qui me viennent avec leur forme. C'est le texte qui m'impose la manière dont il doit être écrit. Je me dis jamais que je veux écrire du théâtre et que donc ça va être ça la pièce. Et je pense que beaucoup de gens qui sont attachés au code ne les retrouvent pas nécessairement dans mon travail. Je m'en soucie assez peu, pour tout dire. Ce qui m'intéresse beaucoup, en revanche, c'est le spectacle. Moi, je me destinais pas à une carrière d'écrivain. Je voulais faire du musical, je voulais être Sid Charis. Je voulais faire un truc où tu peux chanter, danser, jouer la comédie. Et lorsque j'écris donc pour la scène, c'est ce que je dis, que j'écris pour la scène, j'envisage toujours les choses dans cette espèce de transversalité où on va pouvoir mettre de la musique et peut-être bouger un peu et peut-être aussi dire. Et donc voilà, je suis pas sûre que ce soit tellement du théâtre. Mais cette dimension d'introspection, je la retrouve dans l'écriture. À la fois d'introspection et de projection, puisqu'on se projette dans tous les autres qu'on crée. Et qu'on devient donc ces autres, au moins le temps de l'écriture. Et pour un roman, ça peut durer assez longtemps, ce dédoublement de soi, cette projection dans un autre.
Satoshi Miyagi, on fait quelque chose, un mouvement joyeux. Est-ce que c'est aussi le cas pour vous ?
Ah, pour moi, l'écriture est jubilatoire. C'est le reste de la vie qui n'a pas toujours été. Maintenant, ça va mieux à 45 ans. Je me dis que même je pourrais arrêter d'écrire. Peut-être que j'ai plus besoin.
Ça reste une joie.
Ah oui, mais moi je fais pas partie des auteurs qui écrivent dans la souffrance. Je ne souffre jamais en écrivant, quelle que soit l'âpreté du thème choisi. Jamais. J'écris comme une petite fille.
On entend qu'il ne boit pas de café.
Non.
On entend dans la voix de Satoshi Miyagi aussi l'idée d'une responsabilité, c'est-à-dire que cette plongée en soi-même, elle est peut-être jubilatoire pour vous rejoindre, Léonora Miano, mais en même temps, elle est très sérieuse au sens de la responsabilité. Vous citez Frantz Fanon dans l'édition de l'Arche, qui parle de la difficulté de cerner ou de décerner la mission qui incombe à une génération, mais qu'à un moment donné, ça se dessine, trouver sa mission. Et on entend là quelque chose de l'ordre de la responsabilité qu'il y a à écrire. Est-ce que vous diriez qu'à l'âge que vous avez, c'est quelque chose qui est devenu clair pour vous ?
Ça l'était même avant d'avoir cet âge-là. Mais la responsabilité, ce n'est pas... Enfin, bon, ça peut être associé à une notion de gravité, mais... Il peut y avoir de la joie aussi dans le fait de trouver justement sa mission et d'en être certain, de savoir pourquoi on est là. Moi, même si c'est prétentieux, j'ai cette certitude de savoir pourquoi je suis là. Et de faire des choses, même si je ne me prends pas au sérieux moi-même, je prends très au sérieux mon travail et je suis convaincue de sa valeur, de la nécessité de dire les choses que je dis. Autrement d'ailleurs, je ne pourrais pas le faire puisque je travaille souvent sur des sujets assez inconfortables. J'ai produit une littérature qui a longtemps fréquenté les zones d'ombre. Il faut être un peu sûr de soi et de la nécessité de faire ça pour se l'infliger et l'infliger aux autres.
Ça veut dire quoi, fréquenter les zones d'ombre ?
J'ai toujours travaillé sur les silences de l'histoire, parce que l'histoire s'écrit dans ce qu'elle véhicule, ce qui est dit, ce qu'on connaît, mais aussi dans ce qu'elle tait. Et moi, j'écris ce qu'elle tait, tout le temps. Et souvent, ce qu'elle tait, ce n'est pas par hasard qu'elle le tait. C'est parce que c'est ce qui est le plus dérangeant, le plus difficile à assumer. Quelque chose me pousse vers ces régions-là de l'expérience humaine, parce que bien j'ai l'impression que, contrairement à ce qu'on pense, le fait de taire certaines choses, certains événements, en pensant peut-être en éviter la réactivation, au contraire, ça provoque cette réactivation simplement selon des modalités différentes. C'est-à-dire que le malheur qu'on veut fuir revient selon des modalités différentes, précisément parce qu'on a fait silence à son sujet. Et le silence au sujet des événements troubles, des humiliations, des blessures, c'est quelque chose de très très enraciné dans les cultures subsahariennes. Donc j'écris des choses qui, pour la première société qui m'a engendré, sont tabous, et encore plus sous la plume d'une femme.
Donc il vaut mieux avoir conscience de sa mission et en être assez certaine.
Oui, parce que c'est un travail qui va vous isoler, vous faire mal voir, une population qui se sent souvent fragilisée, mal considérée, et qui a besoin que les artistes qui émanent d'elle et qui travaillent à son sujet brossent d'elle une peinture plus avenante que ce que j'ai pu faire parfois et qui m'a souvent été reproché.
On va entendre le début de ce spectacle-là, Léonora Miano, parce qu'il faut entendre ce spectacle.
この世界のあらゆる幻想を盗みつけ新たな形をお与えになる本当いや本当私は何より人類発祥の地あの始まりの大陸にこれからを生まれる魂たち全てをその胸に宿しているお方じゃ
Je dis qu'il faut l'entendre. Alors, c'est une captation du spectacle qui est joué en ce moment au Théâtre de la Colline. Il y a au moins deux choses à entendre dans ce qu'on entend là, Léonora Miano, c'est que c'est joué en japonais et que c'est extrêmement musical. Il y a quelques indications dans le texte pour la scène que vous avez écrite qui signale de la musique, qui n'est pas nécessairement celle qu'on entend et qui est jouée là. Mais cet ensemble de la parole dite, de la musique qui, sinon la porte ou en tout cas dialogue, est-ce que vous vous attendiez à le trouver comme tel ?
Ah non, déjà je m'attendais pas du tout à ce que ce personnage-là soit masculin, puisque je l'ai créé féminin moi. Mais j'ai découvert ça en me rendant au Japon et pour discuter un petit peu avec la troupe, et c'était le début des répétitions. Donc j'ai découvert et j'en ai été ravi. Ce que je souhaitais justement, c'est que Monsieur Miyagi s'approprie complètement mon texte et le ramène vers lui dans son univers esthétique, et il a tout à fait compris ce dont il était question. Pour moi ce spectacle est bouleversant. Je J'ai pleuré pendant les répétitions, j'ai pleuré en allant le voir. Enfin, je suis très 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 émue et c'est un grand moment. C'est un grand moment dans mon parcours d'auteur. Je suis vraiment ravie.
C'est un grand moment de spectatrice et de spectateur, je crois vraiment, pour les personnes qui étaient avec moi ce soir-là dans la salle. Peut-être parce qu'on sent que cela dépasse... On est dans le mythe, en fait, et je crois que ça dépasse... Ça ne veut pas dire que ce n'est rattaché à aucune des géographies, aucune des histoires, mais on est à un endroit qui indéfiniment nous rassemble, qui est celui de la mythologie. Vous faites ce choix-là, pourquoi, Léonora Miano?
Pourquoi le choix de la mythologie? J'ai réfléchi un peu à la manière dont je voulais faire parler les fournisseurs de captifs subsahariens, c'est-à-dire ces figures ténébreuses qui empêchent les Africains subsahariens de se confronter à l'histoire de la déportation transatlantique parce que ils en ont trop honte, ces gens qui ont donc collaboré au crime et dont on ne sait rien d'autre que l'appellation que l'histoire leur donne, hein, les rois nègres qui ont vendu. Et je me suis dit très très vite que j'avais pas envie d'écrire un texte de facture un peu historique, avec peut-être un roi qui ferait ça. Enfin, je voulais vraiment les réveiller d'entre les morts et qu'ils soient sommés de s'expliquer. Et pour faire ça, et ben, il fallait recourir à la mythologie, faire intervenir, qui peut faire parler les morts, déjà qui peut les réveiller. Ben, il faut au moins une déesse. Il faut au moins être dans un espace comme ça. Et c'est de cette manière que c'est venu. Ça s'est imposé naturellement. Si je voulais faire parler les morts, les faire sortir de leur tombe et qu'on les voit sortir de leur tombe, ben, il fallait faire ça. Et c'était ce que je voulais. Donc, c'est venu assez simplement.
Ce qui nécessite une autre mise en place avant la parole des morts, Léonora Miano, puisque avant que de les entendre, avant qu'ils soient sommés de le faire, vous mettez en place des espaces où une crise qui est celle de la grève des âmes. Et donc même avant qu'on se pose la question de qui va parler, pour dire quoi, pour dire quelle vérité, on pose d'autres questions l'espèce de porosité entre différents espaces qu'on appelle le monde des vivants, le monde des morts, l'espèce de responsabilité qu'il y a pour une âme de s'incarner dans un corps vivant lorsqu'il naît, l'espèce de responsabilité des dieux face à ce mélange-là et à cette circulation. Est-ce que c'est une organisation qui vient de mythologie que vous avez fréquentée, que vous avez lue, ou est-ce que d'une certaine manière vous la recréez?
Non, ça vient vraiment de la pensée d'Afrique centrale, en tout cas la pensée bantoue d'Afrique centrale, qui considère d'une part que les communautés sont constituées de vivants et de morts, donc il n'y a pas vraiment de séparation. Hein. On ne considère pas que la mort soit la fin de la vie, c'est sa transformation. Et donc, de toute façon, on est en relation avec les morts, on leur parle, ils viennent à nous. On considère aussi que, effectivement, les âmes qui vont venir s'incarner dans nos corps sont d'abord dans un endroit où elles se trouvent toutes avant de décider où elles iront et pourquoi elles viennent là.
Et si elles veulent?
Et si elles veulent, parce que tout le monde ne se... Et si elles veulent s'incarner, parce que tout le monde ne s'incarne pas, tout le monde ne se réincarne pas en tout cas. On a par exemple de grands ancêtres qui décident de ne pas se réincarner. Mais en général, quand un enfant vient au monde, avant de lui donner un nom, on cherche à cerner l'âme qui est venue en lui. Hein, et c'est en fonction de ça qu'il sera nommé. Donc on ne lui donne pas un nom tout de suite quand il vient d'être. Ça prend plusieurs jours de déterminer quelle est cette âme qui s'est logée dans le corps de cet enfant. Et donc non, j'ai simplement emprunté à des croyances subsahariennes. Ensuite, j'ai inventé un décor, une imagerie, parce que on a beau connaître ces mythes, on n'en a pas toujours de représentation. Ils ne sont pas associés à des images. Donc, il a fallu créer des images. Comment se déplacera la déesse? Comment on veut l'habiller? Comment voilà ce genre de choses. Mais sinon, le fond de l'affaire est totalement emprunté même à la mythologie douala du Cameroun, pour être très, 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 très précise.
Puisque vous soulignez l'importance des noms que l'on donne aux vivants qui naissent sur Terre, Léonora Miano, je pense que c'est important qu'on s'arrête un instant sur les noms que vous donnez à ces groupes d'âmes qui sont plus ou moins réprouvés, qui ont plus ou moins décidé de ne pas se réincarner, puisque ces noms-là renvoient, eux, distinctement, pour ceux qui la connaissent, à l'histoire de la déportation transatlantique. Et je trouve que, pour qui ne comprend pas du tout le japonais, ce sont les noms que l'on entend le plus. Et on sort de la salle et on a comme un chant en nous de Maïbouye, de Ubuntu. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, tous les noms ne sont pas directement liés à l'histoire de la déportation transatlantique, mais toujours à l'histoire de l'Afrique. Et ce sont effectivement des noms qui sont très signifiants. Mais j'aime ça, hein. c'est toujours comme ça chez moi, même si je n'explique pas toujours. Parce que dans notre réalité, c'est ça, c'est que on considère que le nom gouverne l'individu qui le porte et que le nom résume soit son identité, soit sa mission. Hein, c'est le nom qui dicte ce que vous allez faire sur Terre. Et donc, je crée toujours des noms de ce point de vue-là. Donc, j'ai baptisé Ubuntu le groupe de personnes qui représentent les morts sans sépulture de la déportation transatlantique. C'est-à-dire, bien souvent, les personnes qui ne sont jamais arrivées aux Amériques parce qu'ils ont péri pendant la traversée. Donc des gens qui sont morts avec en eux une identité subsaharienne, en ne connaissant qu'une langue parlée sur ce continent, en disant peut-être une prière, en appelant des noms de gens qui étaient restés sur cette terre où ils n'ont pas de souvenirs. Il n'y a pas de mémorial pour eux. Et c'est quelque chose, moi, qui me blesse profondément. C'est quelque chose que je ne comprends même pas pour des sociétés qui, justement, sont tellement attachées à la mémoire de leurs morts. Il y a là des millions de morts que nous avons abandonnés à l'oubli et au silence. Et donc, j'ai déjà écrit à propos d'eux. Les gens qui connaissent mon travail savent que je suis obsédée par ces figures et que je vais finir sans doute par créer un mémorial physique moi-même avant de mourir. Parce que je trouve que c'est absolument nécessaire. Ce sont donc des âmes en peine qui ne peuvent pas trouver le repos, qui ne peuvent pas rejoindre la divinité et se réincarner. Elles sont dans une espèce d'espace qui, pour vos spiritualités à vous, peuvent ressembler peut-être à un genre de purgatoire.
C'est un antre, en fait.
Voilà, c'est un antre. On est nulle part. On n'est plus chez les vivants et on n'est pas auprès de la divinité. On ne peut pas se réincarner. On n'a pas vraiment d'existence. Et surtout, on est enfermé dans son chagrin. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et donc, Ubuntu, je crois que certains le savent désormais, c'est une philosophie bantou, mais le terme est sud-africain. Et qui signifie « je suis parce que nous sommes ».« Je suis parce que nous sommes », ça veut dire « mon existence vaut à travers la tienne ». Il n'y a personne qui a de la valeur tout seul dans son coin. Et évidemment, ça parle de la relation de ces morts avec les vivants, mais ça parle à nous tous en général. Ça dépasse ce cadre-là, ça parle à nous tous en général de la valeur de... Voilà, de nos vies humaines et de l'importance des autres.
Ce qui est d'ailleurs très puissant dans la représentation, pour revenir à ce qu'on voit sur scène, c'est que c'est toujours ce mot qui est prononcé et il y a toujours plusieurs corps qui s'animent au moment où c'est prononcé. Donc c'est assez fou parce que ça dit aussi que le nom qu'on donne désigne peut-être parfois des individus, mais en fait est toujours une référence aux nombreux et aux collectifs.
Absolument, j'adore la façon dont il a mis ça en scène. Parce
il y a toujours 4 ou 5 corps qui arrivent et qui s'animent.
Parce qu'effectivement, moi j'ai réuni toutes ces âmes dans un corps, dans la pièce telle que je l'ai écrite, mais comme il a compris que c'était un groupe d'âmes, il s'est dit, donnons à voir cette multitude, et ça rend les choses tellement puissantes. Voilà, je vais avoir pour la chair de poule rien qu'en y pensant.
Et puis peut-être pour parler de Maï Bouyé.
Alors Maï Bouyé, c'était le nom que j'ai donné donc au groupe des âmes qui doivent aller s'incarner, qui doivent quitter le corps de la déesse pour aller s'incarner dans les nouveau-nés, pour que quand même les êtres humains continuent à avoir une âme. Et Maï Bouyé, je l'ai encore emprunté à l'Afrique du Sud, mais là une période plus proche de nous qui est celle de la lutte contre l'apartheid. Et les militants de l'ANC notamment, parmi leurs nombreux cris de guerre, avaient celui-là, Maï Bouyé I Africa, qui veut dire que l'Afrique revienne. C'est-à-dire que ce qu'ils étaient en train de vivre, ce chaos, cette désolation, toute cette mort au quotidien, eh ben, ce n'était pas l'Afrique. Ce n'était pas pour eux l'Afrique. Donc ils attendaient une espèce de renaissance. Et donc Maï Bouyé, c'est une sorte d'esprit qui doit ramener la lumière, qui doit ramener les belles potentialités, qui doit ramener la prospérité, qui doit ramener la possibilité de se réaliser à nouveau. Mais que tout ça n'est possible que si on a fait la paix avec les morts.
Et ce n'est pas la seule chose qui appelle la thématique de ce qui fait retour dans ce texte d'Eleonora Miano. C'est vraiment un thème qui est extrêmement présent, qui presque donne le mouvement de la pièce. Hein, ce qui revient et ce qui fait retour, on va en entendre un extrait.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Maï Bouyé rentre de son séjour parmi les humains. Sa toilette est en lambeaux. Une poussière de latérite lui recouvre les pieds. Le sol rougit à chacun de ses pas. Elle y laisse cependant des empreintes sombres. Maï Bouyé se présente comme un groupe de jeunes femmes identiques en tout point, marchant d'un même pas, exhalant le même souffle épuisé, noyées de la même abondance de sueur. Certaines s'écroulent après quelques pas. Elles n'iront pas plus loin. Une seule reste debout, continue d'avancer. On entend le Ngoni. Ubuntu vient à elle. Maï Bouyé, vous êtes de retour. Nous passons, Ubuntu. Il nous faut rejoindre Igni au plus vite, nous régénérer dans les eaux de Magamba. Nous savons cela, Maï Bouyé. C'est la première fois qu'on nous appelle ainsi. Tel est le nom qui vous sied. Votre séjour terrestre semble avoir été une épreuve. Vous avez souffert cela, là-bas, dans le pays. Pas durant toute notre incarnation, seulement au moment de la capture et de la déportation. Seulement lors de l'arrachement à nos familles. Seulement pendant l'enfermement dans l'entrepont fétide des navires. Seulement sous la crasse et dans le désespoir. Seulement quand un chant s'imposait à nous pour éloigner la folie. Seulement quand nous récitions nos généalogies, les noms de nos frères d'initiation, les prières apprises de nos pères, pour nous souvenir de nous-mêmes. Et ensuite, lorsque vint la mort sans fin, nos corps abandonnés aux routes de l'infortune, à la solitude glacée de l'Atlantique, nos âmes empêchées de s'élever parce que nous n'avions pas été remis à la terre. Les chants du deuil et de l'apaisement ne s'élevèrent pas pour nous. Maï Bouyé, avez-vous songé à notre requête ? Eleonora Miano, je disais qu'il y a beaucoup de choses qui font retour dans ce texte Révélation. Et en l'occurrence, là, c'est vraiment la rencontre sur le chemin du retour entre deux groupes d'âmes qui se racontent comment elles ont souffert et où elles ont souffert. Je m'arrête dans la lecture en français. Sur cette question, est-ce que vous avez songé à notre proposition, à notre requête ? Quelle est la requête de Ubuntu que vous mettez en scène dans votre texte ?
Eh bien, la requête d'Ubuntu, c'est... ici, d'entendre les mobiles des criminels. Pourquoi des personnes issues de ce continent, l'Afrique, ont choisi de livrer des enfants de cette terre à des étrangers ? pourquoi. Et donc Ubuntu demande à les entendre afin peut-être de s'apaiser. Il demande aussi une place dans la mémoire, hein, dans la mémoire du continent. Ce sont les deux requêtes, en fait. Mais la première, c'est vraiment d'entendre les criminels et de comprendre pourquoi on doit souffrir aujourd'hui ce qu'il appelle la mort sans fin. Hein, la mort qui ne permet pas justement de se réincarner ou même de parler aux vivants. La mort dans la solitude du chagrin sans fin, quoi. Donc voilà quelles sont les demandes d'Ubuntu qui n'est pas censé parler à Maïwouye puisque tout le monde est séparé. Il y a un ordre des choses. Chacun est à sa place.
Mais vous écrivez dans un moment de crise.
Voilà.
Et les gens qui ne doivent pas se... Les gens. Disons, les formes qui ne doivent pas se rencontrer se rencontrent. Et c'est précisément ce moment de crise qui va donner lieu à... Qu'est-ce qu'on pourrait appeler ? Une forme de tribunal ? Un moment de justice ? Comment le pensez-vous, Léonore Agnano ?
Ça nous évoque tout de suite l'image du tribunal, même si oui, c'est un genre de tribunal des dieux, quoi. Je ne sais pas, peut-être que quand les chrétiens imaginent leur jugement dernier, ils doivent imaginer peut-être une sorte de tribunal comme ça où tu viens rendre compte de tes actions au divin. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais comme on n'a pas d'image de ça, moi je l'ai inventé comme j'en avais envie. Mais c'est pas seulement un tribunal, parce que je pense que pour les accusés, pour certains d'entre eux en tout cas, c'est un moment de soulagement. Un moment qui permet d'être entendu et peut-être compris. Parce que tout le monde n'a pas agi par avidité, cupidité, goût de la violence. Il y a des profils différents de criminels, même si cela nous épouvante, tant le crime est effroyable. Il y a quand même des profils différents de criminels, et les criminels sont toujours les nôtres. Ce sont toujours des êtres humains comme nous. Le crime, l'abjection sont le triste apanage du genre humain. Ça n'existe pas tellement chez les animaux.
À qui donnez-vous donc la parole dans cette pièce-là, puisqu'ils sont plusieurs à venir devant cette moitié féminine de l'esprit divin créateur pour dire, alors en effet, ou bien pour se soulager, ou bien pour dire parce qu'ils sont sommés, ils ont des noms eux aussi, et c'est assez important qu'ils en aient, Léonora Miano. Est-ce que vous nous dites qui vous faites parler ? À qui vous donnez presque cette chance, d'une certaine manière ?
J'ai essayé de choisir des personnes qui allaient représenter les espaces culturels les plus concernés. Et évidemment, je n'ai pas mis tout le monde, parce que sinon c'est un peu trop, peut-être. Mais je
vous
pense...
voulez dire que ça ferait un trop long tribunal ?
Oui, j'aurais pu choisir un roi du Dahomey, par exemple. Mais je n'en ai pas mis, ça c'est... Et puis ça semblait peut-être un peu trop évident, c'est ce qu'on accuse en premier.
Vous avez été dans l'ombre de l'ombre encore plus.
Oh, pas tellement, parce que j'ai quand même... Alors, on reste en Afrique de l'Ouest. Damel Bigué, le Kadior, c'est la côte de l'actuel Sénégal, on dit parfois le Kayor, royaume du Kayor ou du Kadior. C'est tous des espaces qui ont existé. Le Congo a été très concerné, donc on a un roi du Congo. Ofiri représente le peuple Yoruba, c'est la seule femme, mais il y a une femme. Big Chief, c'est chez nous, c'est la côte du Cameroun, parce que je suis camerounaise et que je ne pouvais pas les laisser de côté. Et c'est pas les plus sympas, d'ailleurs. C'est pas ce qu'on pourra absoudre le plus facilement. Et il y a Rascal aussi. Rascal, qui est mon seul afro-descendant, est une figure particulière d'afro-descendant revenu sur le continent, c'est-à-dire quelqu'un qui a été esclave dans les Amériques et qui, à la suite d'une révolte, a été expulsé des Amériques vers l'Afrique. C'est beaucoup arrivé, ça, on le sait peu. C'est arrivé au Brésil, c'est arrivé en Jamaïque. Et donc, ces personnes reviennent, enfin, on dit revenir, mais viennent en fait sur un continent qu'elles ne connaissent pas au fond, où elles ne sont pas nées souvent. Hein, et il leur faut s'adapter. Et elle découvre, ces personnes, en arrivant là, que ben, il suffit pas d'avoir la peau noire pour que les autres vous reconnaissent. Et pourquoi ? Parce que, évidemment, dans un espace où tout le monde a la peau noire, elle n'a pas de signification. Donc les autres n'estiment pas que vous êtes un frère simplement parce que vous avez cette couleur. Et donc lui arrive dans un endroit où il n'est pas reconnu, et où, ayant été esclave, il ne veut pas occuper une position sociale subalterne. Et bon, ben, il va se livrer au commerce d'êtres humains, après avoir été esclave, et c'est arrivé aussi. Donc je voulais ce genre de figure un peu paradoxale, parce que l'histoire humaine est complexe, et que voilà, ça peut exister, que ça a existé beaucoup, ce profil-là, de gens qui ont envoyé les autres vers la souffrance.
Qu'eux-mêmes avaient connu.
Voilà, qu'eux-mêmes avaient connu, combattu et fui.
Avant d'en arriver à ce que dit à la fin, qui me semble tellement poignant, cette part féminine de la divinité, est-ce que vous sauriez nous dire, Léonora Miano, comment elle les écoute ? Je dirais encore plus dans cette mise en scène de Miyagi, où le corps d'Inii ne parle pas, elle est agie dans sa parole par un autre corps de comédienne, et donc ce corps de divinité est pour le moins dans une forme de mutisme, pas exactement, mais dans une forme de mutisme.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui.
Ça rend son écoute extrêmement importante à regarder. Comment l'avez-vous écrite, cette écoute de la divinité qui entend les crimes ?
Il y a deux choses pour moi. Il y a évidemment l'autorité, mais il y a aussi l'amour. Et la connaissance de... au-delà de tout ce que les autres protagonistes peuvent savoir, la connaissance de la raison pour laquelle les choses sont comme elles sont. Parce que c'est quand même Dieu hein, qui est là. Ce n'est pas, même si on dit que c'est la moitié de Dieu, c'est Dieu, c'est sa moitié.
C'est sa part, on va
oui.
dire.
Cette part féminine est très importante parce que c'est la part féminine qui crée. C'est la part féminine qui engendre. Elle sait, elle a un souci particulier de la vie, de l'épanouissement des êtres et bien sûr de la justice. Les personnes qui sont sommées de parler ici parce que l'ordre des choses est bouleversé auraient de toute façon parlé à un moment donné. Pour l'instant, ils sont dans une espèce de une sorte de prison. Le mutisme, c'est la prison. Mais ils sont pas censés être détruits.
Oh. catching on the weather. I don't like winter. I seen a girl on the day I do when you go. Yeah, yeah, yeah. Mama, don't you move. Got a bad, bad feeling. Your man ain't coming home. Yeah.
The story of slavery in America. L'histoire de l'esclavage en Amérique, l'histoire du mouvement des droits civiques en Amérique, eh bien cette histoire a été trafiquée, nettoyée, polie, expurgée finalement, comme si les gens voulaient s'en détourner et ne pas la voir. Et je crois qu'il est temps d'accepter de regarder cette histoire sans ciller et de voir comment elle était vraiment. Et de saisir combien il était révolutionnaire, combien il était radical à l'époque pour une femme esclave de revendiquer sa maternité et d'affirmer cet enfant est le mien. Et de regarder aussi les véritables conséquences qui découlaient d'une vie d'esclave, à savoir que, eh bien, un esclave ne possède pas son propre corps et il ne possède pas non plus l'enfant sorti de ce corps.
On entend la voix de Toni Morrison en 2006 au micro de Clémence Boulouk pour les entretiens à voix nue diffusés sur France Culture. Elle s'exprime à propos d'un livre en particulier que vous connaissez bien, Leonora Miano, Beloved, parce que vous y avez consacré, je crois, un mémoire, vous me disiez avant de commencer l'antenne.
Un mémoire de maîtrise.
Et il me semble intéressant peut-être de revenir sur ce qu'elle dit à la fin de l'archive, à savoir le rapport à la descendance, à l'enfantement, parce que vous disiez il y a une figure féminine parmi celles et ceux qui viennent s'exprimer dans cette espèce de tribunal divin, c'est Ophiri. Et Ophiri, peut-être a un récit qui diffère de celui des autres, parce qu'il engage très proprement son corps, qui engage très proprement la question de ce que c'est que de donner naissance ou ne pas donner naissance. Qu'est-ce qu'elle porte pour vous, cette parole, et qui peut-être peut être en résonance avec ce que disait Toni Morrison à l'instant?
D'abord, je voulais évidemment une figure féminine parmi les criminels, parce que ça existait. Mais aussi, je voulais quelqu'un qui ait eu des motifs personnels, intimes même, oui, d'agir. Voilà. Parce que souvent, on peut commettre, on peut faire le mal pour des raisons très 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 privées, qui ne sont pas du tout des raisons politiques, qui ne sont pas du tout des raisons liées même aux circonstances. Non, c'est... Ophiri a une douleur tout à fait personnelle. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Or, elle est en charge de femmes qui vont, elles, en avoir. Et au bout d'un moment de son parcours de prêtresse, elle ne supporte plus d'accompagner le bonheur des autres. Elle est jalouse. Et elle va les priver de cet épanouissement attendu, en faisant en sorte que ces femmes soient déportées. Alors, comment est-ce que j'ai créé cette situation où on utilise son pouvoir spirituel et les capacités de guérisseur ou de guérisseuse pour endormir les gens et les livrer aux négriers?
Et comment c'est ensuite récupéré, puisque
oui, tout à fait.
Ah, je vous en prie.
Tout à fait. Mais je l'ai trouvé justement en faisant des recherches et en trouvant de tels événements. Voilà, c'est arrivé que justement les gens utilisent leurs compétences de guérisseurs, de grands prêtres, pour faire croire à la population qui se déroulait des actes un peu
mystiques,
et que les gens disparaissaient comme ça. Et vous avez encore des régions en Afrique où les gens associent le pouvoir du chef à la capacité à faire disparaître les gens. Mais simplement parce que ça s'est produit, ça. Et qu'on n'a jamais vraiment expliqué qu'en fait, non, les gens ne disparaissaient pas, on les donnait. On les donnait, on les endormait, on les donnait. Et donc c'est de là que vient un peu le sentiment d'Ophiri vis-à-vis de ces femmes, mais la manière dont elle a agi et dont ses actes ont ensuite été récupérés par d'autres.
Et ce qui est très presque dissonant au moment où elle prend la parole, c'est qu'elle-même a une manière très différente de s'adresser au divin, puisqu'elle dit « tu sais ». Alors peut-être qu'elle la vouvoie, mais je crois qu'elle lui dit « tu sais, tu sais de quoi je parle, tu sais ce que c'est que cette souffrance-là, tu connais mon corps ». Et donc d'un seul coup, on n'est plus du tout dans l'histoire avec un grand H, dans de la politique, on n'est plus du tout à cette échelle-là, on est vraiment à l'échelle de ce que c'est que la vie d'un individu qui est déterminante pour la vie des autres. Et on en revenait à ce que vous disiez tout à l'heure, Léonora Miano, « je suis parce que nous sommes ». On sent vraiment que le parcours intime de cette femme devient déterminant pour quelque chose d'extrêmement collectif.
Mais disons que c'est avec elle que la dimension intime et son impact sont rendus vraiment très très saillants. Mais finalement, chez les autres aussi, c'est le cas. On a un roi du Congo qui en fait était un mauvais roi. C'est quelqu'un qui certainement, s'il avait eu le choix, n'aurait pas gouverné. Il n'était pas fait pour ça.
Il le dit d'ailleurs.
Voilà, il n'était pas fait pour ça. Et donc, il a toujours un métro de retard quoi sur les décisions à prendre. Et quand il les prend, ce sont même pas les bonnes. C'était juste un mauvais roi. C'est-à-dire quelqu'un qui avait pas la bonne sensibilité. On a le roi du Cadior qui lui veut défendre sa population. C'est toujours des questions de sensibilité au fond. C'est toujours des questions de personnalité très très individuelle. Ce sont des individualités qui agissent. Et c'était important pour moi de le montrer. Ce sont toujours des individus qui font l'histoire, mais partout. Et là aussi.
Ce qui peut peut-être rejoindre la discussion ou la réaction possible avec l'archive de Toni Morrison, qu'est-ce que vous apprenez ou à quel endroit critique vous vous situez lorsque vous consacrez votre mémoire à ce roman-là dans votre parcours, Léonora Miano?
Déjà,
ne dites pas que c'était il y a longtemps.
Non, c'était il y a longtemps, mais c'est pas grave. Moi, j'avais été une drop-out, c'est-à-dire quelqu'un qui abandonne la fac, alors que normalement elle devrait continuer. J'étais très 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 enceinte quand j'ai eu ma licence. Mes professeurs 68ardes ne comprenaient pas pourquoi je n'avais pas avorté, parce qu'elles me trouvaient si brillante et elles trouvaient que j'étais en train de gâcher ma vie. Et parce que j'ai eu un enfant tôt, j'avais 22 ans, j'ai dû interrompre mes études pour m'en occuper, travailler. Mais je suis retournée à l'université une dizaine d'années plus tard. Parce que, entre-temps, j'avais découvert l'œuvre de Morrison et que je voulais absolument... Je suis retournée à la fac pour ça, hein, pour travailler sur Morrison et en particulier sur les femmes. Donc, je me suis réinscrite en maîtrise. Il se trouve que la question des femmes n'intéressait pas mon professeur de littérature américaine de l'époque, si elle m'entend, elle s'en souvient. Et qu'elle m'a suggéré... Elle a accepté quand même Morrison, mais elle m'a suggéré de travailler sur le corps dans Beloved. Bon, comme je voulais de toute façon bosser sur Morrison, j'ai accepté et ça a été très 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 intéressant. Beloved est un roman puissant, vraiment puissant et très dérangeant. Très dérangeant parce que c'est l'histoire d'une esclave qui affirme certes sa maternité, le droit de revendiquer le fait que ses enfants soient à elle, mais elle affirme ce droit d'une manière assez tragique, puisqu'elle va mettre à mort son enfant pour qu'il ne soit pas esclave, mais il y a quand même une mise à mort. Il y a, donc dans Beloved, il y a cette histoire, l'histoire de cette femme, mais il y a toute une manière de raconter, une manière sensible de raconter la résilience, de raconter comment dans ces circonstances, on arrive à avoir encore ce qui s'appelle en anglais « agency » et qu'il n'y a pas vraiment de traduction. Les Québécois disent « agentivité », mais « agentivité », pour moi, ce n'est pas français.
Non, j'ai découvert ce mot il y a 4 jours, « agentivité ». C'est la possibilité de se rendre actif
voilà, d'agir quand même alors qu'on est... Voilà, on est un esclave ou on est quelqu'un en tout cas qui est privé de pouvoir dans la société, mais on garde quand même une possibilité d'avoir un peu d'autorité sur sa propre vie, de prendre des décisions.
Un libre arbitre.
Voilà, et même d'agir, et même une capacité d'agir. Et moi, c'est ce que je trouve le plus fort dans ce roman, que des gens qui n'ont rien, qui ne sont rien pour le monde qui les entoure, arrivent imposer quand même une espèce de puissance. On le voit beaucoup dans le personnage de Baby Suggs, qui est la grand-mère et qui invente une espèce de spiritualité profane qui permet justement à sa communauté de trouver une signification à sa vie malgré tout.
Qui me fait quand même penser immédiatement à la fin de cette pièce. Je le dis en français, vous l'entendrez au japonais si vous allez voir cette mise en scène, mais vous le lirez en français. À nos enfants là-bas dans le pays, nous disons « Vous êtes les premiers-nés du genre humain. Tout ce qui est dans le monde procède de vous comme vous émanez de nous. Vous l'avez su jadis, le droit d'aînesse est d'abord un devoir. Notre peine est immense de vous voir manquer à l'humanité. Il n'entre pas dans nos conceptions que l'on prenne la fuite devant sa propre existence et que l'on retourne contre soi sa puissance. Nous connaissons vos blessures, l'étendue de vos pertes, tout ce qui vous assaille. Mais nous vous avons remis, et dès le premier souffle, les moyens de la régénération. Missipo tout entier sait qui vous êtes. Sachez-le à nouveau, sachez-le pour toujours. Maïbouye portera ce message au plus grand nombre. Accueillez-la, elle revient parmi vous. J'ai parlé. » C'est une forme d'agentivité mythique que vous remettez là, Léonora Amiano, dans les vivants.
Totalement, totalement. Et
c'est un grand acte vivant et puissant que vous signez à la fin de cette pièce-là. C'est-à-dire, très bien, nous avons entendu la souffrance. Cependant, n'oubliez pas qu'on ne peut pas se défausser devant l'existence, oui, et que la puissance, il ne faut pas l'utiliser contre soi-même.
Et ça ne peut pas être une excuse d'avoir souffert. Ça ne peut pas être une excuse pour justement s'enfermer dans un statut de victime. On est autre chose que victime d'un moment de son histoire et qu'il faut se relever. Et si j'avais à adresser un message à l'Afrique subsaharienne contemporaine, ce serait vraiment celui-là.
Tout à l'heure, vous disiez que vous vous tenez dans des zones d'ombre où il est inconfortable d'écrire et de parler. Par exemple, ça, c'est inconfortable de l'écrire ?
Non, pas ça, parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de dire et je pense que je le mets dans la bouche du personnage qui s'y est pour le dire. C'est des mots qui, il y a beaucoup d'amour, il y a bien sûr une exhortation à prendre ses responsabilités, mais ça c'est toujours chez moi. Je fais partie des gens qui pensent que de toute façon, comme le dit un proverbe africain, les ennemis de l'extérieur ne peuvent pas te faire de mal s'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur. Donc moi, je suis toujours en train de traquer l'ennemi intime. Hein, l'ennemi intime, la faille, peut-être même ontologique, hein, même si ça nous fait peur, la raison pour laquelle quelqu'un a pu nous faire du mal, quelqu'un a pu nous assujettir. Je pense que ce n'est jamais parce que cet autre est plus puissant. Je pense que c'est toujours parce que nous renonçons à notre puissance et que c'est vrai au niveau individuel comme au niveau collectif.
Et la fin de la pièce remet en circulation cette puissance, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'endroit où ça a chopé, l'endroit où les mécanismes étaient comme ça grippés de sable par la grève des âmes, reprend doucement et dit « ça peut de nouveau circuler, Maïbouye va porter cette puissance ». Il y a énormément d'espoir dans la fin de cette pièce, Léonora Amiano.
Oui, tout à fait, vous l'avez très bien lu, je n'ai rien à ajouter.
Sinon que c'est le vôtre peut-être.
Cet espoir, Ah mais je suis remplie d'espoir, j'ai toujours dit que mon travail était possible uniquement parce que j'étais pleine d'espoir, sinon on ne fréquente pas les ombres. C'est parce qu'on croit à la lumière qu'on peut les fréquenter.
C'est à cette lumière-là que vous vous permettez de les fréquenter, c'est-à-dire de lire l'histoire, de lire les textes, de vous aventurer dans des endroits où justement le cri qu'on entend au début de la pièce est inaudible et difficile à entendre.
Oui, c'est parce que je pense vraiment que c'est salutaire de faire ça, sinon je ne le ferais pas. Je n'ai pas plus de goût qu'un autre pour le morbide. Et non, moi... J'aime rigoler, hein. Je suis plutôt une chouette fille, une marrante même. Mais voilà, il y a ces problèmes-là et je pense qu'il faut les affronter et que on ne guérit jamais d'une maladie qu'on n'a pas pu nommer.
Ça rejoint, je disais tout à l'heure qu'il y avait Frantz Fanon en citation au début de la publication de ce texte-là, et il y a quelqu'un d'autre qui est Cheikh Anta Diop et qui parle de l'accession à la vérité par la propre investigation intellectuelle. C'est un travail que vous opérez, on l'a bien entendu, Léonora Amiano. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un travail qui est insuffisamment mené en Afrique subsaharienne?
Sur cette question de la déportation transatlantique, oui. Alors, nous avons des historiens qui travaillent là-dessus, mais ils ne sont pas vraiment très très soutenus. Ce n'est pas une thématique porteuse, disons-le, disons-le franchement. Et de fait, la voix de l'Afrique tarde à se faire entendre, alors même que elle a vraiment une position très spécifique. Alors, c'est aussi une position particulièrement inconfortable, puisque nous réfléchissons à toutes ces questions en séparant les victimes et les bourreaux. Voilà, l'Afrique, elle est des deux côtés, et c'est compliqué. C'est compliqué. Finalement, les autres ont tous une position qui est beaucoup plus nette.
Quand vous dites les autres, c'est qui ?
C'est l'Europe, où les populations afro-descendantes, donc descendantes de subsahariens déportés. C'est soit ceux qui ont été à l'initiative du commerce, soit ceux qui existent aujourd'hui parce que leurs ancêtres ont été déportés. Ces deux positions-là, même si elles sont inconfortables, elles sont quand même plus nettes. Elles sont quand même plus nettes. Quand tu es descendant de personnes réduites en esclavage, bah tu es ça. Et que ça. Quand t'es africain, t'es un peu les deux, quoi. T'es un peu des deux côtés. Mais j'estime, moi, que c'est justement une position précieuse parce que c'est elle qui nous permet de comprendre les deux autres parties le mieux.
Et d'insuffler la complexité absolument nécessaire pour penser tout cela.
Oui, et de rappeler que les gens n'ont pas agi parce qu'ils étaient blancs et que dans la peau blanche, il y a quelque chose de négatif. Non, c'est... En fait, on a tragiquement racialisé cette histoire pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir agir, pour pouvoir réduire en esclavage. Mais au fond, s'il y a bien un élément qui n'a aucune pertinence pour la comprendre, c'est le critère racial, quoi.
Et la mise en scène, probablement, de Satoshi Miyagi permet complètement de s'en évader,
voilà.
Et c'est salutaire. Merci infiniment, Léonora Miano, d'être passée par ici. Je dis donc que cette trilogie Red in Blue est publiée aux éditions de l'Arche, donc le texte Révélation, qui est mis en scène par Satoshi Miyagi en ce moment au Théâtre de la Colline à Paris. Et le Mahabharata dont vous parliez tout à l'heure, on peut le voir du 19 au 25 novembre, ce sera à la Villette. Oui. C'est une reprise et c'est à Paris. Merci.
Merci à vous.
Bon, peut-être que ça me permet de dire dans votre éclat de rire que je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir cette pièce. Au son ce soir, c'était Bernard Laniel à la réalisation. C'était Lise Combe. À demain sur France Culture, 21h pour parler temps qui court. Et quand vous voulez sur franceculture.fr pour vous abonner par exemple au podcast ou nous écrire. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Lou Quevauvier qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Je vous souhaite une excellente soirée avec Miles Davis sur France Culture.